Fréville PM. Politique.
C'est inquiétant que quelqu'un a mis lui-même dans cette situation. C'est une très mauvaise jugement. Et la première fois que j'ai eu une opportunité de parler avec M. Clément face à face, c'est lundi. On a été mis au courant de la situation et nous avons discuté.
J'ai pas de commentaire à faire sur Tony Clement.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, comme à chaque jour à 7 heures, Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour, Carl.
Bonjour.
On vient d'entendre donc Andrew Scheer, le chef conservateur, qui parlait de son collègue député, ancien ministre important dans le gouvernement Harper, Tony Clement, qui a été pris... résume-nous ce qui s'est passé, parce que c'est pas super clair, là.
C'est pas clair, mais ce qui est clair, c'est que c'est il a partagé des images et une vidéo sexuellement explicite de lui-même.
Avec qui?
Il croyait que c'était une destinataire féminine consentante, mais il se retrouve que c'était plutôt un individu ou un groupe d'individus, ça c'est pas clair, qui l'a ciblé pour des fins d'extorsion financière. Alors, il a envoyé des images à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Puis il y a quelqu'un qui a essayé d'y extorquer de l'argent.
Donc, dans le fond, ils ont fait du chantage. Ils ont dit, si tu ne nous donnes pas telle somme d'argent, on va rendre public cette vidéo ou ces images.
C'est ça. Et là, il dit que la Gendarmerie royale du Canada a ouvert une enquête. Là, il a démissionné de ses fonctions parlementaires comme porte-parole dans le cabinet fantôme d'Andrew Scheer. Il demeure député, cependant, là, mais il n'y a plus aucune autre fonction parlementaire, siège plus à aucun comité. Il dit qu'il a fait preuve d'un mauvais jugement, mais c'est le cas de le dire. Écoute, on peut... ce matin, là, au caucus, habituellement, les députés conservateurs sont assez volubiles, sont assez disponibles. Mais aujourd'hui, les journalistes les cherchaient, les trouvaient pas. Et le seul sur lequel on a pu mettre la main, c'est le sénateur conservateur Jean-Guy Dagenais. On peut écouter ce qu'il avait à dire.
Bon, j'ai pas de jugement comme tel à poser. J'ai lu la nouvelle comme tout le monde. J'ai été un peu surpris. Et je me dis, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut être prudent quand on est sur les médias sociaux.
Ouais, OK. Mais remarque...
Moi, je vais emporter un jugement.
Ah oui, vas-y.
Tony, qu'est-ce que tu fais là? Je veux dire, on est dans la foulée du mouvement MeToo. C'est pas arrivé il y a des années, là, c'est arrivé il y a 3 semaines. T'es un politicien d'expérience. Qu'est-ce que tu fais envoyer des photos, des vidéos à du monde que tu connais pas?
La meilleure défense, là, c'est toujours la modestie. Il faut se souvenir qu'il y a moins de gens qu'on peut le penser qui sont intéressés de nous voir nus, de voir nos prouesses. Un conseil général, peu importe à quel point vous avez une estime de vous-même. Cette estime-là n'est peut-être pas partagée par les autres.
La pratique en tant que telle, moi je la comprends pas. Je trouve pas que c'est une bonne idée généralement, mais encore plus quand t'es un politicien en vue, t'es candidat à la direction de ton parti, t'es ministre de la Sécurité publique, qu'est-ce que tu fais là?
T'es ministre de la Santé, non?
Oui, également, aux affaires étrangères aussi. C'est un poids lourd du Parti conservateur. Et puis là, l'histoire s'arrête pas là, messieurs. Sur les médias sociaux, là, depuis hier, depuis que la nouvelle est sortie, les allégations commencent à sortir. Des jeunes femmes qui disent que Tony Clement les accostait via les médias sociaux, les rendait inconfortables, ça se faisait aux petites heures de la nuit.
Oh.
Et là, cette histoire risque de ne pas être terminée parce qu'habituellement, on n'envoie pas des photos, des vidéos une fois.
Non, ça c'est vrai ça. Les chances qu'il ait été pris en flagrant délit à la première tentative sont assez minces.
Assez mince.
Et là, c'est important ce que tu nous dis là, parce que veut pas, faut qu'Andrew Scheer gère ça comme du monde. Là, s'il gère pas ça comme du monde, Scheer, c'est sûr que ça va rebondir dans sa cour avant longtemps, là.
C'est certain.
Une question de leadership, là.
Absolument. Donc, il y aura certainement une enquête qui sera faite de la part du Parti conservateur, enfin, je l'espère, parce que parmi les jeunes femmes, il y a une journaliste de la Tribune parlementaire qui dit « Moi aussi, j'ai reçu un message Instagram après minuit, puis je trouvais ça plutôt inconfortable. »
OK, on va continuer à suivre ça, mais j'ai l'impression qu'on va reparler demain, Carl.
Probablement que ça va être à suivre dans les prochains jours, là, mais sinon
dans les prochaines heures. Mettons que ça regarde pas bien, comme on dit en mauvais français, pour Tony Clement. OK, revenons à Québec. Paul Journet. Le surplus, Il y a combien le surplus, finalement? Tu vas nous dire ça, toi, là, là.
Ça dépend à qui tu parles. Mais même si je te donne la réponse définitive, il y a peut-être des comptables qui vont remettre en question mon expertise.
Ça se pourrait.
De quel droit? Donc, souviens-toi, vendredi dernier, oui, le ministre des Finances convoque une conférence téléphonique dans laquelle il nous annonce que selon le plus récent rapport mensuel, il y a un surplus de 3 milliards qui a été enregistré du mois d'avril au mois d'août. Donc, pour les 5 premiers mois de l'année financière actuelle.
Ah oui, tu nous en parlais
une
hier.
Super bonne nouvelle,
hier.
Exact. Ben oui, ben oui. Là, ce matin, à l'entrée du Conseil des ministres, on a eu une autre version.
J'ai jamais dit ça. En fait, j'ai fait une conférence téléphonique. J'ai été très précis. J'ai expliqué qu'il y avait des éléments non récurrents au niveau des revenus. Les revenus ont cru deux fois plus vite que prévu dans les 5 premiers mois de l'année, mais ce ne sera pas le cas sur l'ensemble de l'année.
On se demandait si c'est vraiment un surplus de 3 milliards. Là. On est en train de reviser les méthodes de comptabilisation. Là. Je ne suis pas certain qu'il y ait un surplus de 3 milliards.
OK.
Donc, je comprends autant que vous.
Il dit c'était 3 milliards vendredi, mais là, depuis, on a réalisé...
Il remet en question la façon du ministère de présenter les chiffres. Il se demande si le 3 milliards écrit sur papier, c'est bel et bien un 3 milliards en surplus réel.
Parce qu'il y a des éléments non récurrents.
Oui, il y a un débat là-dedans de comptabilité.
C'est clair.
Que, honnêtement, qui dépasse ma compétence. Et d'autant plus que j'ai seulement eu accès aux déclarations écrites. Mais ce qui est certain, sur le plan politique, il y a une gestion des attentes. Écoute, tu as un gouvernement qui dit on a 3 milliards de surplus, donc tout le monde se revire de bord, puis dit ben vous allez en avoir non seulement assez pour vos engagements, mais pour peut-être aussi pour telle ou telle ou telle demande. Puis 3 milliards, c'est beaucoup, mais on le sait, Bernard, les besoins sont illimités. Et 3 milliards, c'est assurément inférieur que toutes les demandes qui existent.
Ben oui.
Donc, il y a des attentes à gérer. Indépendamment de qui dit vrai ou faux dans le débat comptable, on devait recadrer, je pense, on devait atténuer les attentes.
C'est pour ça qu'on sort aujourd'hui, tu crois?
Ben, je dis entre autres pour ça, mais je n'exclus pas qu'ils puissent avoir un argumentaire fondé sur la comptabilité. Peut-être aussi qu'ils ont tort. Je veux être prudent.
D'accord.
Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser là-dessus.
Carl?
Ce que je remarque là-dessus, là, c'est que ça fait plusieurs fois que le gouvernement semble échapper son message. Et ça s'est fait dans plusieurs dossiers. C'est le dernier exemple en lice. Et là, je veux bien croire que le gouvernement est nouveau, là, mais tu peux pas échapper le ballon comme ça à répétition sans que les gens commencent à se poser des questions sur le contrôle que tu as de ton élément de communication. Et ça devra être établi rapidement parce que, comme on l'a dit, on a parlé hier, ça roule depuis la fin de semaine. Et donc,
s'il y avait un problème, il me semble que s'il y avait un problème, il l'aurait corrigé.
C'est ça, j'aimerais savoir.
Quand j'entends Gérard dire, je vous ai pas dit que c'était 3 milliards, je vous ai dit autre chose, mais c'est parce que tout le monde a compris 3 milliards, puis tout le monde a rapporté 3 milliards depuis.
Oui.
Si tu avais voulu corriger, tu l'aurais fait avant. Il s'est passé quelque chose.
Qu'est-ce qui s'est passé entre vendredi et mercredi pour que tout à coup, on ait une autre lecture des chiffres?
C'est ça. Voilà, très bonne question. Et on aura sans doute la réponse à un moment donné.
Ou pas.
Bon, OK. Disons-le comme ça. On va travailler fort pour obtenir la réponse.
Envie d'espoir, Bernard.
Et un petit peu sur le travail.
Aussi.
Notamment du tien.
Part pour toi.
Oui, c'est cela. Bon, très bien. OK, on s'arrête. Parce qu'au retour, des bonnes nouvelles. En ce qui me concerne, des bonnes nouvelles. Parce qu'hier, je vous ai parlé de la taxe 450, hein, que la communauté métropolitaine de Montréal envisageait. Le 50$ de plus là, sur vos plaques d'immatriculation pour payer pour du transport en commun. Ben imaginez-vous donc que Mme Rouleau, la ministre caquiste responsable de Montréal, vient de dire « ça n'arrivera pas, on va pas le permettre, on n'est pas d'accord avec ça, nous autres, que vous augmentiez les taxes des gens du 450 ». Et là, alors d'abord, une réaction rapide d'un gouvernement qui vient d'arriver. Mais là, il n'y a pas le journée. Pas le journée. Vous vous rappelez, hier, il était d'accord avec ça. Là, il est pas
pro-taxe.
Mais il est pro-taxe, pas le journée. On sait bien qu'il est pro-taxe.
Fait que là, j'espère que mon micro va fonctionner au retour de la pause
regarde.
Parce que j'ai beaucoup de choses sur le cœur, Bernard.
Après la pause.
Une vue d'ensemble de l'actualité.
Il n'est pas dans notre intention d'augmenter les taxes des citoyens. Au contraire, on veut remettre de l'argent aux Québécois. Cependant, on sait très bien que les municipalités ont besoin de diversifier leurs sources de financement. Et il y a plusieurs avenues qui existent.
Trainville PM.
Alors, c'était la ministre Chantal Rouleau, donc députée de Pointe-aux-Trembles, hein, l'une des deux élus caquistes sur l'île de Montréal, qui est aussi ministre responsable pour la métropole. Et là, elle dit essentiellement l'idée là d'imposer le 50 piastres par année sur les plaques pour financer du transport en commun d'un banlieue, là, on n'est pas pour ça, nous autres, le nouveau gouvernement du Québec. Et là, Paul, tu vas réagir. Paul, tu vas réagir.
Premièrement.
Oui, Paul.
La communauté métropolitaine de Montréal n'a pas fini ses travaux. On attend un rapport au début de l'année prochaine. Et avant même qu'elle ait eu la chance de prendre officiellement position, la ministre déléguée Rouleau vient écraser ça en disant « ça sert à rien de travailler là-dessus, nous autres on est contre ». Donc on peut se questionner sur la confiance qui est donnée à l'autonomie des municipalités.
Et de la communauté métropolitaine de Montréal dans ce cas-ci, oui.
Et, mais moi je suis pas le partisan irréductible de la taxe sur l'immatriculation.
Ah non?
Pas forcément. Je l'ai dit hier, je le répète, c'est une taxe à la possession d'un véhicule.
Oui.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de cadrer le débat de façon plus large pour qu'on sorte de notre espèce de déni ou d'hypocrisie. Tu peux le formuler comme on veut, là. On va commencer large, puis après, on va descendre dans l'entonnoir.
Vas-y.
Est-ce que tu es d'accord qu'il faut réduire la consommation de pétrole de 40 % d'ici 2030 et les gaz à effet de serre d'à peu près 37 % d'ici 2030? Ça, c'est les deux cibles du Québec. Tous les partis disent qu'ils sont d'accord avec ça.
Oui.
Donc, on ose espérer que la CAQ est d'accord.
Moi, je suis d'accord.
Et c'est le minimum.
Je suis d'accord.
Est-ce qu'on est aussi d'accord que ça va nécessiter pas juste des petites modifications? C'est une révolution. Les mesures qu'on qualifie de radicales, là, ça devrait quasiment être vu comme étant positif, le terme radical. Tu as juste à lire les chiffres de l'état de l'énergie publiés au HEC par Pierre-Olivier Pinault. Il te montre à quel point, si on suit les courbes actuelles, on n'a aucune chance d'en arriver là.
D'accord.
Et on a besoin de plusieurs nouveaux projets de transport collectif.
Donc,
j'y arrive, très bientôt. On a besoin de nouveaux projets de transport collectif. Quand tu regardes dans l'enveloppe actuelle, il manque d'argent. Il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour faire tous les projets qui sont annoncés. Donc, il faut de nouvelles sources de financement.
Mais Paul, le monde étouffe. Si tu voyais à toutes les fois qu'on parle de fardeau fiscal, les courriels puis les textos qui rentrent, là, le monde, ils sont comme à côté de sa botte. Ouais. Sais-tu
qu'est-ce qui est un problème économique autant pour la consommation des ménages que pour le déficit commercial du Québec? C'est les voitures, l'achat de voitures et les dépenses en essence. C'est des milliards de dollars par année. Puis ça, c'est de l'argent qui quitte le Québec. Mmh. Je peux même croire que tu dis que le
mais
monde est
taxe...
Mais est-ce que
Il y a d'autres moyens, Paul. Je vais te dire un affaire. Hier, j'ai eu une bonne discussion avec quelqu'un là, qui m'a dit...
Laisse-moi
là,
juste finir vite. Donc, il y a d'autres moyens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut trouver de nouvelles sources de financement. Moi, je prétends pas que la taxe sur l'immatriculation, qui va juste ajouter 100 millions de dollars par année, ça va régler tous nos problèmes.
Non.
C'est peut-être pas la seule source de en fait, c'est tout sauf la seule source de financement, quoi qu'on pourrait régler une iniquité entre Montréal et les couronnes nord et couronnes sud. Mais il y a d'autres sources, puis il va falloir réfléchir à ça. Donc, s'il y a un parti qui me dit « je suis d'accord avec les cibles de réduction de gaz à effet de serre et de pétrole », mais qui me dit jamais où ils vont aller chercher l'argent, ben moi, je dis que c'est un parti qui vend du rêve puis qui refuse de dire qu'ils vont rien faire puis qu'on va échouer à nos cibles.
Je pense que le financement, c'est une chose, mais la réalité, c'est qu'il faut s'attaquer aux habitudes et aux façons de voyager. Et le Québec solidaire l'a fait pendant la campagne là, pour arrêter la vente de véhicules à essence. Je pense que c'est vers ça qu'on va se diriger, plus que vers un nouveau de taxation, parce que les services ne seront pas là, puis les auditeurs qui voyagent, tant que le transport en commun ne sera pas plus efficace que la voiture, ils le prendront pas.
Mais je vais vous dire, hier...
Mais
ouais,
mais comment t'améliores les transports en commun avec les enveloppes insuffisantes?
Écoute bien. Hier matin, j'ai eu une discussion fascinante, OK, avec quelqu'un qui se spécialise dans l'économie, ce qui s'appelle, je trouve ça très rébarbatif comme terme, l'économie collaborative. Bon, on se fout du mot, là. Mettez le mot de côté. Il me disait, as-tu remarqué le nombre de voitures sur nos routes où t'as seulement le passager, t'as seulement le conducteur, t'as pas de passager? Je dis, ben oui, évidemment. Ben, il dit, imagine-toi que chaque voiture est un mini autobus de 4 places ou de 5 places. Ben, plus souvent qu'autrement, sur nos autoroutes, ce qu'on a, c'est un chauffeur, puis le reste de l'autobus est vide. Il dit, il faut travailler pour faire en sorte que les chars qui prennent les routes puis les autoroutes soient qu'il y ait 2, 3, 4 personnes. Il faut trouver une façon de mettre ensemble les gens qui prennent chaque matin, à chaque heure, le même autoroute. Ça, la même autoroute, je trouve que ça, ça serait pas mal plus porteur que de dire aux gens qui nous écoutent, on va encore vous taxer, on va encore aller chercher de l'argent dans vos poches. Je trouve, quand tu y penses, là, je sais que la liberté de conduire, la liberté de partir à l'heure, la liberté d'être seul, la liberté d'écouter la musique que tu veux ou le poste de radio que tu veux dans ton char, c'est quelque chose de fondamental. Mais quand tu y penses deux minutes, là, actuellement, là, t'as un paquet de véhicules qui pourraient transporter du monde, qui sont ni des autobus, ni des métros, ni des trains de banlieue, mais ils sont déjà ces routes. Pourquoi on n'essaye pas de travailler là-dessus?
Ça, je suis 100%.
Pourquoi on n'essaye pas de travailler là-dessus?
Ben là, il faut rappeler qu'il y a quand même des gens qui travaillent là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Rappelons l'argent
à la décharge des politiciens, que Jean-François Lisée avait fait une proposition audacieuse là-dessus.
Oui, oui.
La Coalition Avenir Québec, ça, c'est un aspect qui l'intéresse hein, quand on parle de
prendre dans le fond,
Uber,
c'est une application.
Des applications comme ça. Ça, ils sont ouverts. Je sais même qu'ils sont en discussion avec des gens qui travaillent là-dessus. Donc ça, c'est plus un pour eux. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas prétendre que l'un exclut l'autre et qu'on peut travailler seulement sur un volet et non l'autre. Les projets qui sont annoncés, le tramway vers l'Est, comment tu vas le financer? Moi, je suis certain que François Bonnardel, en ce moment, il rencontre ses fonctionnaires, il regarde dans le plan quinquennal des infrastructures puis ils lui disent, regarde toute la liste d'épiceries que tu nous as faite. Par ailleurs, sans dire qu'est-ce que tu allais construire, quand, dans quel ordre, il n'y a pas assez d'argent pour ça.
Non, ça, c'est sûr.
L'autre affaire qu'il faut regarder, c'est le télétravail. Tu sais, il y a du monde qui se promène, ils s'en vont travailler à Montréal pour écrire un rapport. Ils peuvent l'écrire de la maison, mais il y a une mentalité à changer. Les gens ont peur que les travailleurs ne fassent pas la job s'ils sont chez eux.
Ça aussi, le PQ en parlait.
Oui, oui. Mais ce dont tu parles, c'est la fameuse, le Tinder, là, de la... Oui. Le Tinder de la... Comment on appelle ça? La
covoiturage.
Covoiturage. Voilà, exactement. Ouais. Paul Journet, éditorialiste à la presse. Merci.
Merci.
Carl Bélanger, consultant stratège. Merci.
Salut.
Salut. À demain, tous les deux. Dans un instant, on continue. On aura notamment cette maman-là, dont le fils s'est fait filmer nu à son insu.